11 septembre 2020, Bremerhaven, Allemagne. Institut Alfred Wegener. Retrouver le corps d'un type mort au milieu de l'Inland 6 il y a 90 ans et dont personne ne se souvient, c'est ça ton idée géniale? J'ai bien compris. Exprimé comme ça, évidemment, le projet de Samuel Marksen, géographe en chef à l'Institut Alfred Wegener, semblait absurde. Presque suicidaire. Sam, comme l'appelaient tous ses confrères, roula son mug entre ses mains et répondit néanmoins avec calme, son regard perdu par-delà la baie vitrée de la cafétéria. L'été s'achevait, et déjà une grisaille automnale gommait couleurs et reliefs dans tout le nord du pays. Du gris clair de l'Allemagne au blanc infini du Groenland, il n'y avait guère que quelques nuances à franchir, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que personne ne se souvient plus de Rasmus Filmussen qu'il compte pour du beurre. Je te signale qu'il était le dernier compagnon de voyage de Wegener, celui qui, selon la plupart des sources, était à ses côtés à la fin. Des circonstances exactes de la disparition d'Alfred Wegener, père de la théorie de la dérive des continents, l'histoire officielle ne savait rien ou presque. Dans les diverses biographies qui lui étaient consacrées, près d'un siècle après les faits, le récit de ses derniers jours se limitait à quelques lignes très évasives. Alors, en quelques mots, Sam résuma pour Hans Kramer, son jeune collègue du labo de recherche arctique, les éléments parvenus à sa connaissance. À peu de choses près, ce qu'on pouvait trouver sur la fiche Wikipédia du célèbre climatologue allemand. Comment se pouvait-il que Hans ignorât cela? Il fallait croire que la direction de l'Institut n'exigeait plus de ses nouvelles recrues un savoir élémentaire sur leur figure de tutelle. En 1930, Wegener avait déjà effectué deux missions au Groenland, se lança Sam. En 1908, puis en 1912. Toutes les deux à vocation météorologique. Le but de la troisième n'était ni plus ni moins que d'évaluer l'épaisseur de la calotte glaciaire à son sommet, au beau milieu de l'Inland 6. Et c'est là qu'on a perdu sa trace? C'est un peu plus compliqué que ça. Wegener, son confrère Fritz Leveux et leurs 13 guides inuits sont partis d'Ukusissat sur la côte ouest au matin du 21 septembre 1930. De ce que l'on sait aujourd'hui, la météo s'est vite dégradée sur leur parcours. Ils ont été pris dans un blizzard très fort et les Groenlandais ont préféré rebrousser chemin avec leurs attelages. Ils les ont lâchés comme ça? S'indigna Hans. Sans chien ni traîneau? Oui, enfin, ils leur ont quand même laissé un traîneau. Ils n'avaient pas un accord avec Wegener, une sorte de contrat? Tu sais, les Inuits sont avant tout des pragmatiques, de vraies machines à s'adapter aux circonstances. Si les conditions sont défavorables, voire dangereuses à leurs yeux, ils renoncent. Un point, c'est tout. Il n'y a aucune question contractuelle ou morale là-dedans. C'est juste leur instinct de survie ancestral qui s'exprime. Si tu le dis. Bref, seul un certain Rasmus Filmussen, un gars d'Upernavik, est resté avec eux. À eux trois, ils ont continué leur route et fini par atteindre Eismitte, le 30 octobre. Eismitte, qu'est-ce que c'est? Une base scientifique installée par les Allemands en plein cœur de l'Inland 6 au mois de juillet précédent. D'ailleurs, c'était l'autre motif de leur trek, ravitailler les deux permanents de cette station pour qu'ils tiennent tout l'hiver. Mais quand ils sont arrivés sur place, le vœu était très mal en point. Plusieurs de ses orteils avaient gelé et ils ont dû l'amputer dans des conditions sanitaires de fortune. Charmant. Wegener a effectué ses relevés glaciaires seul et lui et Leveux étaient convenus que ce dernier resterait quelques semaines à Eismitte, le temps de se retaper un peu et d'être à nouveau capable de marcher. Donc ils l'ont laissé en plan lui aussi. Il n'était pas tout seul, il y avait les deux résidents avec lui. Ouais, c'est quand même pas très cool. Et ensuite, Wegener et Filmussen sont repartis en sens inverse vers la côte ouest dès le surlendemain de leur arrivée, le 1er novembre. C'est durant ce trajet-là qu'ils ont définitivement disparu des écrans radars. Un silence ponctué de brèves gorgées de café s'étira quelques instants. Pourtant, si je te suis bien, argua Hans, le corps d'Alfred, il aimait bien l'appeler par son petit nom, a été retrouvé, non? Oui, au printemps suivant, le 12 mai 1931. Il gisait dans une sorte de tombe creusée à même la glace. Mais celui de Filmussen, lui, n'a jamais reparu.